Salut Smart et salut Marc et bienvenue dans les pronos de TLC 2017 par la team Catch-Up. Vous êtes de nouveau accompagné par Hank, c'est moi, et vous êtes accompagné par l'amiral Armbar. Amiral.
Salut à ceux qui viennent de nous rejoindre et re-salut à ceux qui sont toujours là.
Donc, on va passer au peigne fin, cette carte de Tables, Ladders and Chairs, qui commence avec un kick-off, bien entendu. Et c'est quoi le kick-off? Eh ben, c'est Sasha Banks contre Alicia Fox, cette feu d'inattendu qui vous laisse la barbe aux lèvres. Et donc voilà, ce match sans véritable enjeu. Est-ce que la WWE serait capable de pusher Alicia Fox? Vas-y, Amiral.
De pusher Alicia Fox, aucune chance, zéro chance, no way.
No way, José?
Ouais. C'est pas possible.
D'accord. Ok, donc
indiscutable. Donc Sasha Banks va gagner. Sinon, ce serait contre une intervention, je sais pas moi, de je sais pas qui, j'en sais rien. Mais c'est tout.
Ah oui, c'est possible aussi.
Voilà. Naya Jax qui revient. Bon, repartir voilà, sur Naya Jax, Sasha Banks.
Et comme ça, on a quelque chose pour occuper Bayley. Une nouvelle fois, la tag team Banks-Bayley qu'on nous.
Les meilleurs amis.
Les meilleurs amis. Non, mais Sasha Banks va gagner. À moindre tricherie. En fait, tout l'enjeu de ce match, finalement, c'est est-ce que. C'est juste pour combler du temps et puis donner un match à Banks, ou alors carrément il y a un mec qui a pété un câble et qui voulait faire une vraie rivalité entre Banks et Alicia Fox. Et s'il existe, virez-le.
You're fired. Non, ouais, c'est pour compléter la carte tout simplement. Hein. Je veux dire parce que je veux dire sur d'autres matchs, mais TLC vu qu'ils concentrent dans un seul match deux des ceintures, enfin les championnats par équipe, le championnat intercontinental. Il n'y a plus grand chose à mettre sous la dent, trop d'attention sur un seul match, il faut combler la carte, c'est pour ça qu'on a effectivement ce 3 matchs féminins dans la TLC, hein, ce pre-show et 2 autres, qu'on a 2 matchs cruiserweight, voilà, c'est qu'il n'y avait plus assez pour faire un show de pay-per-view de 3 heures, donc on se retrouve avec ce truc là, voilà.
Voilà, donc... Nous avons ensuite dans la carte principale, normalement, Brian Kendrick et Jack Gallagher contre Cedric Alexander et Rich Swann. Si vous avez regardé le dernier Monday Night Raw, vous voyez un petit peu cette storyline. Hein, c'est parti de Jack Gallagher qui devient heel, et puis Cedric Alexander qui se fait harceler hein, par Kendrick et Gallagher. On mise sur quoi? Alors il y a une victoire si on parle contre booking.
Ouais.
Il y a une victoire d'Alexander au dernier Monday Night Raw hein, contre Gallagher. Contre booking ou pas?
Ouais, compliqué. Je pense que oui, contre booking. Je pense que les heels, pour solidifier un peu le passage, le heel turn de Gallagher et son association Brian Kendrick, je pense qu'ils vont gagner cette manche-là. Je pense pas qu'ils vont gagner la guerre à terme, mais en tout cas, ce premier match tag team des deux, je vois bien les vilains l'emporter.
Oui, moi aussi, tout simplement parce que même si ça a été construit quand même de ce qu'on a vu dans le package sur plusieurs semaines, on arrive un petit peu à l'essence de la rivalité. On n'aurait pas fait un package, donc ils veulent sûrement continuer à construire là-dessus, finir peut-être avec un 1 contre 1 Alexander contre Kendrick. Donc voilà, moi je pense que ça va continuer parce que ça marche plutôt bien. Finalement, le seul qui nous intéresse pas vraiment là-dedans, c'est Rich Swann, mais bon, il est là, il danse et il s'est remué le bassin et ça, c'est important.
Et c'est cool. Et un truc qui est pas cool par contre, j'en parle maintenant parce que ça concerne TLC en général et me rappelle Tristan sur le chat en live, c'est what the fuck, c'est Tables, Ladders and Chairs, et on n'a qu'un seul match qui utilise les multiples stipulations de ce pay-per-view. Moi, j'adore TLC pay-per-view. J'ai de très bons souvenirs de plein de matchs, de matchs de chaises, de matchs de table, des matchs d'échelle que j'adore, et des matchs, bien sûr, TLC. Et là, sur la carte, on n'a qu'un seul match qui utilise la stipulation, le match final TLC. Ils n'auraient pas pu foutre un chairs match pour le championnat féminin, par exemple, ou un ladder match pour un truc. Je sais pas, quoi. Je comprends pas qu'ils n'utilisent pas, alors que le mois dernier, sur Hell in a Cell, ils ont fait un super boulot avec deux très bons matchs en cage qui ouvraient, qui fermaient le show. Là, complètement foiré, ils sont passés à côté de l'intérêt et la spécificité de ce pay-per-view, et ça me les fout, là ça m'énerve.
Après, on est à la WWE, donc les improvisations de stipulation la veille d'un pay-per-view, ça existe.
Oui, mais
donc je serais pas étonné qu'un des matchs qu'on va citer là ait une stipulation, ou alors que simplement il n'y a pas de stipulation, mais ils trouvent quand même des chaises en dessous du ring, et puis finalement pendant le match on apprend que c'est sans disqualification. Après tout, Michael Cole, il n'y a pas si longtemps au Raw de la semaine dernière, était même pas au courant que le match féminin était à élimination.
Ouais, je suis d'accord, t'as tout à fait raison, hein. les stipulations sorties de chapeau, on en voit régulièrement, mais là merde quoi, non, je me souviens pas de TLC où il n'y avait pas effectivement en plus un match TLC, un chairs match, un table match, un ladder match. Moi j'adore les matchs à échelle où il faut décrocher un truc, une ceinture, un contrat.
Quand on regarde la carte, finalement, c'est que des. À part Balor, Wyatt, c'est que des rivalités qui viennent de commencer. Et c'est peut-être ça aussi la faiblesse.
Mais là aussi, Balor-Wyatt, c'est une rivalité qui a commencé. Parce que c'est pas Balor-Wyatt, c'est labellé comme le démon contre Sister Abigail.
Ouais. Mais donc, du coup...
Le branding du match, quoi.
Du coup... Non, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, un tables match, un ladder match, un chairs match, c'est des choses qu'on donne à des rivalités qui ont quand même un petit peu duré pour mettre normalement un point final, ou alors c'est genre l'avant-dernier match de la rivalité, parce que voilà, c'est un match plus violent que les matchs normaux. Donc c'est que des rivalités entre Kalisto, Enzo Amore, Alexa Bliss, Mickey James. C'est des trucs qui viennent de commencer. Donc
ouais, mais moi j'aurais bien mis un match, une stipulation de match à échelle pour le titre Cruiserweight par exemple.
Oui,
pourquoi pas.
Oui. C'est pas faux. Après, ouais. Là, c'est un match de cruiser où il y a des vrais heels. Est-ce que les vrais heels feraient des acrobaties comme ça? Ouais, je vois quoi.
Voilà. Et puis pour le match féminin, vraiment un tables match, je trouve ça aurait été cool que Mickey James rebondisse, qu'elle dise oui, ah ouais, tu dis que je suis une vieille, que je suis ringarde, j'ai pas ma place. Bon, on va voir si t'en as dans le ventre. Nous, je te montre comment on faisait dans les 90, on était hardcore. Donc si t'es comme ça, tu vas pas avoir peur d'avoir un match de table. Et voilà, et c'est booké, ouais. Et c'est point, quoi. C'est pas plus incohérent que la moitié de
ce qu'ils font. Tu la balances sur une table et rebondis. Mais...
Ah,
bon,
pas
allez,
faux.
On va revenir à la carte. Kalisto contre Enzo Amore. Donc du coup, Kalisto, désormais nouveau champion, contre Enzo Amore et sa nouvelle faction Heel. Est-ce que la réponse est si évidente que ça? Moi j'y crois, hein. ça me semble évident, ils vont remettre la ceinture sur Amore, et puis ils vont passer soit ils mettent la ceinture sur Amore tout de suite et là il faut qu'ils sortent un lapin de leur chapeau pour remplacer Kalisto, ou alors ils nous font galérer avec Kalisto jusqu'à cette histoire dont on parlait là dans le podcast Raw de Cedric Alexander, qui sont en train de monter de plus en plus comme le babyface de la division.
À ne pas enlever Mustafa Ali aussi, hein, qui dans cette rivalité est présenté comme celui qui cherche des poux Enzo. Ouais, donc du coup, peut-être on aura forcément une intervention de Ali dans le match, ça me paraît évident, ça va un peu rétablir les forces. On a vu au précédent gros qu'il a cleané le ring, nettoyé le ring en virant tous les sbires d'Enzo, donc eux, quand ils vont intervenir, Mustafa Ali va débarquer et faire le ménage. Donc je suis pas sûr, mais je pense quand même qu'Enzo va récupérer la ceinture.
D'accord. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas comment ils pourraient tourner ça justement pour remettre la lumière sur Mustafa Ali finalement pour un peu shifter vers lui et faire oublier un peu Callisto parce que tout le monde sait que voilà Callisto là c'était un petit peu leur plan B pour sauver toute cette histoire un peu étrange de contrat et tout ça. On va passer à cette rivalité pénible qui semble ne jamais finir. Des segments pourris qui ne semblent jamais s'arrêter. The Demon, numéro 2, Finn Balor, contre Sister Abigail, aka Bray Wyatt. Qu'est-ce que... À ce stade-là, finalement, on ne sait plus, quoi. On ne sait plus. Est-ce qu'il faut que Bray Wyatt se fasse battre une nouvelle fois? Est-ce que finalement ils vont donner une victoire à Bray Wyatt pour qu'on souffre pendant encore des mois et des mois?
J'en sais rien. C'est un match, je sais pas. C'est tellement n'importe quoi qu'il n'y a aucune cohérence possible. Ce qu'on sait, c'est que Finn Balor démon bat Bray Wyatt. Que Finn Balor homme version grise bat Bray Wyatt. Là, du coup, est-ce que Sister Abigail va écraser la citrouille ou inversement? Non, je pense que là, franchement, moi, je verrais une victoire Bray Wyatt parce que Sister Abigail, on a tellement parlé depuis le début de Bray Wyatt, ça fait partie de sa mythologie, même si on laisse tomber à un moment donné. Là, s'ils essaient de nous faire avaler le fait qu'il est vraiment en mode fusion Sister Abigail, bah, il faut qu'il gagne, quoi. Et Balor n'a rien montré de genre de changer hormis la couleur de son maquillage. Donc non, pour moi, ouais, Bray Wyatt va l'emporter dimanche.
Moi je dis victoire du démon, départ de Bray Wyatt de la WWE le lendemain.
Et la semaine plus tard, Bray Wyatt au Bullet Club, c'est ça? Non, non, non. Bray Wyatt va gagner, je pense.
Non, mais faut arrêter. Les gens sur internet, dès que quelqu'un parle de la WWE, ah, il va au Bullet Club. Tout le monde va au Bullet Club. Il n'y a pas d'autre.
en même temps, c'est pas qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est que ce serait un move loin d'être con. Hein. Ce serait une décision loin d'être conne pour Neville, par exemple, ou d'autres qui vont se barrer.
Au bout d'un moment, ça va être un peu un dépotoir de la WWE.
Ouais, mais c'est à mon nez, c'est le boomerang. Hein. C'est l'effet flashback. La WWE a aspiré des talents un peu partout, notamment au Bullet Club. On voit les gens qui étaient au Bullet Club à un moment donné qui sont à WWE. Il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Donc c'est que nature. Chose normale que l'inverse se passe aussi.
Je vais balancer ce qu'on appelle chez les Américains une softball, c'est-à-dire une devinette très facile. Asuka contre Emma, qui gagne.
Bon, il n'y a pas de match, hein. Enfin, il n'y a pas de match. J'espère que le match sera bien, mais c'est sûr que oui, Asuka va gagner. Car personne n'est prêt pour Asuka.
Non, mais c'est surtout pas possible. Là, on en arriverait. Je casserai ma télé. Non mais de faire perdre Asuka qui est, on le rappelle pour les gens qui regardent pas NXT, une championne qui a été invaincue dans toute sa carrière à NXT pendant plus de 500 jours si je ne me trompe pas.
Pendant 530 jours elle a été championne.
530 jours.
Et elle n'a jamais été vaincue même avant qu'elle soit championne donc.
Voilà. Donc voilà, limite le prono devrait se faire sur la durée du match finalement. Moi je mise sur un vrai match de 10 minutes.
Ouais, j'espère, hein. J'espère vraiment qu'ils vont donner ce temps-là minimum à ces deux compétitrices de montrer ce qu'elles valent dans le ring pour que les gens découvrent Asuka, pour que Emma ait l'espace de remontrer un catch plus intéressant, plus percutant et intense. Donc là il y a un vrai enjeu et vu la carte qui n'est pas trop surchargée, j'espère que ça va le faire.
Et donc, si vous avez jamais regardé Asuka à NXT, vous allez voir que le rear view de Naomi peut être fait de façon
létale,
intéressante. Ouais. Voilà, ce n'est pas simplement un move ridicule. Mais bon, on passe au match pour la ceinture féminine. Oui, j'ai pas dit Callisto Enzo. Non, si, j'ai dit Callisto Enzo Amore. Donc pour la ceinture Cruiserweight, bon, vous l'avez deviné. Alexa Bliss contre Mickie James pour la ceinture des femmes de Raw. Alexa Bliss qui est quand même qui commence à avoir un règne costaud.
Ouais.
Est-ce que finalement on ferait pas plaisir à Mickie James pour ensuite une transition vers autre chose? Ou alors on garde encore Alexa Bliss championne.
J'ai presque envie de dire que ça va dépendre d'une chose, ça va dépendre, et le vrai prono pour le match Asuka Emma est plus là-dessus, Asuka face ou heel ? Parce que Asuka a démarré son règne à NXT en tant que face et elle a tourné heel au fur et à mesure. Et je pense que si Asuka est heel comme elle était précédemment à NXT, je pense que Mickie James a des chances de l'emporter pour mener un match de ceinture une face contre Asuka heel, donc la Mickie James. Par contre, si Asuka est présente en tant que face, je pense que je vois bien Alexa Bliss garder la ceinture pour qu'elle se fasse détrôner par Asuka.
Je crois qu'elle sera face, moi. Je crois qu'elle sera face parce que le... Justement parce qu'ils ont des faces qui fonctionnent pas en ce moment.
Mais sauf, ils ont des heels qui fonctionnent pas à part Alexa Bliss. Hein.
Non, Alexa Bliss et Nia Jax.
Ouais,
ça fait quand même deux. Ça fait quand même deux très bons heels. Et de l'autre côté, finalement, là en ce moment, c'est un peu le. C'est un peu étonnant, mais finalement, la seule face qui est convaincante, même si des moments elle est un peu elle est un peu cucu, quoi, mais c'est Mickie James.
Ouais.
Finalement, c'est la seule qui semble naturelle au micro. Bon, elle a l'expérience, mais...
C'est ça.
Mais donc ouais, moi, je serais pour une Asuka face. Et pour ce match... je vois... Moi, l'embêtant, c'est qu'en fait, je veux voir Asuka face, mais je pense que Mickie James va gagner. Je ne sais pas pourquoi.
Non, donc, je mise, comme Rafa qui est sur le chat, je mise vraiment Alexa Bliss qui gagne la ceinture et Asuka va être face. Et,
généralement, de toute façon, tous mes pronos sont faux. Hein. N'hésitez pas à faire du contre-promo par rapport à tout ce que je dis, parce que la majorité de mes promos sont faux. Je suis toujours vers la voix, genre, ah, ils vont faire un truc créatif. Non. Et... ce match, alors au booking improbable, au surbooking, The Shield contre Braun Strowman, Le Miz, Kane, Cesaro et Sheamus, c'est-à-dire une montagne de catcheurs dont deux poids lourds et probablement une des meilleures tag teams du monde.
C'est compliqué parce que
ils peuvent se faire avoir le Shield après. Et il peut y avoir une espèce de domination du Shield et un élément qu'on n'a pas vu venir et qui fait qu'ils se feront arnaquer, mais ça sera pas ridicule.
Non, parce que je vois pas ça dans le sens où il y a tellement de force en vive, en présence, surtout qu'il y aura tellement peut-être Curtis Axel ou Bo Dallas, on sait pas, ou peut-être les deux seront blessés, on verra, mais. Non, là, je vois pas encore une fois, même si j'aime beaucoup Le Miz et j'ai beaucoup d'admiration pour son côté planificateur machiavélique qu'il y a depuis quelques semaines. Je pense que son dernier atout c'était Kane. Ça va, il y a suffisamment de monde en face, quoi. On va pas rajouter encore quelque chose pour faire une défaite du Shield. Je pense qu'en fait, la surprise va peut-être venir de l'autre côté, plutôt, pour rééquilibrer les forces, hein, comme tu disais dans le dernier Catch-up Pro. Ou alors simplement, je vois pas le Shield perdre en fait, c'est ça le problème.
Ouais, mais je vois pas qui. C'est vrai, ça serait probable, mais je vois pas qui peut rejoindre le. Qui est proche du Shield.
Alors peut-être que Fantasy Booking a deux balles. Hein. Tu l'as dit, on en parlait. Kane, s'il revient, c'est peut-être pour venger son frangin Undertaker qui s'est fait mettre à la retraite par Roman Reigns. Ok.
Ouais.
Imaginons que le match se passe et qu'à un moment donné, forcément, le nombre fasse sa domination et que le Shield soit malmené. Imaginons que la lumière s'éteigne, qu'on entende un gong et que l'Undertaker arrive, prenne partie du Shield parce qu'en fait, il trouve que le combat contre Reigns était réglo, Reigns a gagné clean. Ok.
Mm-hmm.
Donc il n'y a pas de raison de venir se venger de Reigns plus que cela. Il n'y a pas de raison que Kane s'insère dans un match où le rapport de force est inégal. Donc, ce n'est pas juste. Si on parle d'un Undertaker face, il pourrait éventuellement faire ça. Pour dire à son frangin, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas bien ce que tu fais.
D'accord.
Donc, le Shield aux côtés de Undertaker gagne. Là, c'est... Vince pop comme un malade. Non, il est content. Un John Cena.
Non, ça voudrait rien dire.
Pour pourquoi pas. Il a passé le flambeau à Roman Reigns et là il voit que
combien
chances...
de flambeaux là.
Non mais il l'a passé par le passé. Je veux dire, il lui a déjà donné.
Ah oui,
mais le fait que là il voit que c'était par des arnaques, parce que finalement le match à Raw en cage a été gagné par Braun Strowman, qui fait que Braun Strowman reste dans le match et que Kane soit dans le match par une grosse tricherie. Enfin, c'était un plan de mise. Donc tout face qui voit ça dit, tiens, c'est pas juste. Et vu que c'est un match sans élimination, bah je vais aller aider les mecs, je vais aider le Shield. Donc tout face du roster pourrait avoir un intérêt à venir. Qui peut mener derrière vers un truc de Survivor Series, j'en sais rien. Mais
On a Raphaël qui nous propose les Hardy Boys avec le Shield.
Franchement, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Ils étaient en bisbille contre Cesaro et Sheamus autour de la ceinture. Même s'ils ont envie de la récupérer et que c'est Rollins et Ambrose qui l'ont, bah, c'est des face avant tout. Hein.
Galouf Von Diepool qui nous dit retour de HHH en face.
Très très bon.
Bah moi j'ai croisé HHH dans WWE 2K18 et je peux vous dire que c'est un gros connard. Voilà, ce sera tout pour nos promos. Donc voilà, on mise sur le Shield hein, dans tous les cas. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter une nouvelle fois sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube. Vous pouvez même nous regarder sur YouTube. Là en ce moment, on enregistre ces pronos en live, direct live, comme dirait Nikos. Et donc du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter. Twitter.com/catchupcdc pour savoir quand on stream, quand on est en live sur YouTube, et pour pouvoir interagir avec nous, parce qu'on lit les commentaires pendant nos podcasts désormais. Je remercie l'amiral une nouvelle fois pour être venu pour ses pronos.
Un plaisir.
Et je vous souhaite à tous une très belle semaine jusqu'à ce pay-per-view plein de tables, plein de chaises et plein d'échelles. Bonne semaine. Salut.
Salut.